Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. J'espère que vous allez bien, moi je suis en forme. Donc c'est parti, on se prend la main et on y va tous ensemble pour cet épisode du podcast des maternelles qui va être extraordinaire. Je vous préviens tout de suite. Le podcast des maternelles, oui j'en fais un peu trop aujourd'hui. Le podcast des maternelles sur un sujet fort, un témoignage fort et je suis sûr va beaucoup vous intéresser. Le thème, j'ai fait des jumeaux, oui mais en solo. Voilà, Louise, que vous allez entendre maintenant, est une maman solo de 3 enfants, dont des jumeaux. On va entendre Louise, et puis après, nous serons avec l'un des plus grands spécialistes français, et même du monde, sur la reproduction, l'aide à la procréation médicalement assistée, le professeur Michael Grimbert. On écoute Louise, puis le professeur Grimbert, c'est parti.
La loi dite de la PMA pour toutes a récemment ouvert les techniques de procréation assistée aux femmes célibataires désireuses de devenir mère. Et les gynécologues sont littéralement débordés par les demandes. Voilà. Bonjour Louise.
Bonjour.
Alors vous êtes la maman d'Antime, qui a 8 ans, qui se balade dans les couloirs, qui est trop trop mignon. Vous l'avez assumé seule, Antime, dès la grossesse, parce que le père biologique n'a pas souhaité s'investir dans la vie de cet enfant. Et puis 6 ans plus tard, vous mûrissez un nouveau projet, vous vous dites, pourquoi est-ce que j'agrandirais pas la famille? C'est pas parce que je suis tout seul que je vais pas le faire. Grossesse seule, donc par choix, grâce à la PMA. Et en 2020, vous avez accueilli non pas un bébé, parce que la vie nous joue des tours et des farces qui sont plutôt très sympas parfois, mais 2 bébés. Et c'est Émile et Anatole, des jumeaux âgés de bientôt 2 ans, qui se baladent aussi et qui sont à tomber. On va revenir un petit peu en arrière, si vous le voulez bien, Louise. Donc vous êtes retrouvée là, pour le coup, maman solo pour la première fois, mais c'était malgré vous. Est-ce que ça a été compliqué pour vous? Parce que c'est vrai qu'on présente souvent la maman solo comme une maman un peu malheureuse, quoi, un peu débordée, très seule.
Alors, cette première grossesse, en effet, c'était une surprise. Et ça a été très compliqué pour moi, dès le départ, une grossesse avec une dépression avant la naissance, après... Oui, voilà, je pleurais énormément. C'était vraiment très compliqué pour moi, même si j'avais tout pour être heureuse, que j'avais une situation stable, que j'étais entourée. C'était pour moi très compliqué d'accepter, en fait, cette parentalité solo.
Voilà, donc c'est vrai que là, pour le coup, vous avez quand même vécu ce que vivent la plupart des mamans. Et puis j'imagine qu'il y avait aussi le choc d'apprendre que vous êtes enceinte et de voir que le père ne veut pas assumer.
C'est ça. J'ai appris la grossesse assez tard, j'étais déjà à 7 semaines. Puis finalement, lui ne souhaitait pas poursuivre la grossesse. Et moi, c'était quelque chose que j'envisageais pas. Donc voilà, j'ai décidé d'assumer toute seule ce bébé. J'avais déjà une trentaine d'années. Donc,
alors voilà. Après, j'imagine que vous y êtes fait. Ça s'est plutôt bien passé. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à la décision d'une PMA en solo? Parce qu'après, vous avez vécu une histoire d'amour quand même après ça, ou pas?
Oui, après la naissance de mon fils, j'ai rencontré quelqu'un. Ça a duré un petit moment, mais ça n'a pas poursuivi. Et après une formation en périnatalité, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais ce désir d'être à nouveau maman. Donc j'ai cherché comment je pouvais être maman toute seule. Et est venue l'idée de passer par la PMA à l'étranger.
Vous êtes dit, moi je veux une grande famille, c'est pas parce que je suis toute seule que je vais me priver de ce bonheur-là.
C'est ça.
Ouais. Mmh. Alors vous avez donc 36 ans, vous choisissez une clinique en Belgique.
Ouais.
Donc c'est une insémination artificielle avec donneur anonyme de sperme. Vous avez donc une stimulation ovarienne. Le premier essai, comment ça s'est passé? Vous arrivez en Belgique, on vous insémine,
ouais.
Et là... Qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes dans quel état?
J'étais très, très sereine. Je me sentais vraiment très, très bien. J'étais vraiment prête à accueillir tout ce qui venait, en fait. Et très rapidement, je me suis sentie enceinte, sans savoir si ça avait marché ou pas. Mais je me sentais vraiment alignée et j'avais vraiment l'impression que ça ne pouvait pas être autrement que positif.
Vous étiez sûre de vous en sortant,
ouais.
Vous êtes dit ça a pris.
C'était incroyable, c'était plus fort, c'était vraiment un ressenti très profond. Et très vite, je me suis dit, ah mais en fait, si ça se trouve, il y en a plusieurs et c'est OK, quoi.
Ah ouais? Vous êtes dit ça?
Ouais, ouais.
D'instinct?
Okay. Bah ouais, il y avait quelque chose qui... Voilà.
Alors Louise, racontez-nous comment vous découvrez que vous êtes vraiment enceinte, même si vous en étiez intimement persuadée, et surtout vous êtes enceinte de jumeaux.
Alors quand je fais mon premier contrôle chez la gynécologue, elle s'arrête de surprise et en fait, il y en avait 3. Et je lui dis non, mais vous inquiétez pas.
Ça aurait été une autre affaire quand même, 3.
Ouais, 3, ça aurait été... je n'ai que deux bras. Et finalement, il y a un des sacs qui a disparu et donc il restait bien deux petits gars en pleine forme.
Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez appris que c'était des jumeaux? Ça vous a pas fait peur quand même?
Eh bien, en fait, j'avais déjà comme cette sensation d'avoir déjà des jumeaux en moi. Donc, en fait, je n'ai pas eu peur. C'est plus l'entourage qui était plus inquiet pour moi.
Oui, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Vous décidez d'agrandir la famille en mai. Vous êtes enceinte de jumeaux en septembre.
C'est ça.
Donc, c'est quand même ultra rapide. Vous n'avez même pas eu de temps d'adaptation psychologique, je dirais. Qu'est-ce que vous disait votre entourage?
Les gens étaient contents. Mais c'était plutôt ma maman qui était inquiète par rapport à l'arrivée de ces deux enfants, parce que ça me faisait trois enfants, toute seule.
Oui,
donc,
d'un point de vue logistique.
Toute une organisation à envisager et que j'ai rapidement pris en main pour que tout se passe pour le mieux pour la suite.
Alors, votre grossesse s'est globalement bien passée. Le 5 mai 2020, vous accouchez par voie basse, 7 mois de grossesse, un peu avant. Ça y est, vous êtes maman solo, donc de 3 garçons. Ça devient concret. Comment ça s'est passé, la rencontre avec vos bébés?
C'était super. Ça reste un moment très, très émouvant pour moi. Très serein, j'étais bien entourée. Ça s'est vraiment très bien passé.
Vous avez accouché avec qui? Avec votre maman à côté de vous?
Non, j'avais une doula.
Ah, une doula.
Une doula qui m'a accompagnée. Je voulais quelqu'un de très neutre à mes côtés, qui saurait me soutenir et du coup, qui est devenue une amie.
Oui, parce que forcément, on tisse des liens très,
très
privilégiés. Vos enfants ont passé presque un mois en néonate, comme ils sont nés un petit peu avant. Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été vraiment difficiles? Parce que maman solo, il y a quand même le grand qu'il faut continuer à gérer, à élever. Vous avez en plus décidé de les allaiter. Vous avez réussi à vous organiser toute seule comme ça?
J'ai anticipé. J'ai déménagé pour une plus grande maison. J'ai préparé plein de petits plats au congélateur pour être sûre d'avoir de quoi manger après.
Pendant votre grossesse?
Ouais, j'ai préparé tout ça. J'avais prévu plein de personnes pour m'aider après, par la suite. J'avais contacté des organismes de TISF. Et du coup, tout était prêt. Quand je ressortirais de la maternité, j'avais la liste avec tous les numéros de téléphone des personnes qui pouvaient m'aider. Comme ça, quand je suis rentrée à la maison, j'ai sorti la liste, j'ai appelé et tout s'est mis en place dans la semaine.
Il n'y a eu aucun moment difficile?
Si, bien sûr, il y en a toujours.
Je veux dire, l'organisation, il faut que j'en allaite un, l'autre se met à pleurer. Il faut que j'emmène le grand à l'école.
Les mêmes problèmes que maman, quand on n'en a qu'un, et là, multiplié par deux. Donc il faut continuer d'emmener l'aîné à l'école, de préparer les repas pour lui, d'essayer d'avoir du temps pour lui. C'est ça qui reste le plus compliqué, je pense, c'est d'avoir du temps pour son fils aîné. Ça reste une frustration, même encore maintenant. Mais on essaye à force, en grandissant, les jumeaux, j'arrive à me dégager plus de temps pour eux et un petit peu de temps même pour moi, quelquefois.
Ouais, de toute façon, ça ne peut qu'aller en s'améliorant, puisqu'ils vont donc être de plus en plus autonomes par la force des choses. Quand vous parliez de la liste des numéros de téléphone que vous aviez anticipé, c'était quoi comme réseau d'aide? C'était surtout l'entourage ou vous avez quand même eu des puéricultrices qui sont venues vous aider?
Alors, moi, je ne me sentais pas dans le besoin de puéricultrice, pédiatre, tout ça. J'ai un médecin généraliste qui est hyper au taquet, qui est très présente. Donc, quand j'ai besoin, elle est toujours là. Les TISF, qui sont venus pendant un an quand même à la maison et qui ont tissé des liens forts avec les enfants.
C'est quoi les TISF ?
C'est des travailleuses à domicile spécialisées dans la famille et du coup, qui sont là pour toutes les mamans et encore plus intéressant pour les mamans qui ont des jumeaux parce que ça permet d'avoir deux bras supplémentaires.
Donc ça, on peut peut-être conseiller à nos téléspectatrices et téléspectateurs, solo.
Ou pas solo, c'est pour tout le monde.
Ah oui, c'est pour tout le monde.
C'est pour tout le monde, on ne le sait pas assez. Et en fait, on a le droit à 6 mois pour un enfant, 12 mois pour deux enfants, et voire plus longtemps s'il y a vraiment des besoins.
Qu'est-ce qu'on fait? On contacte la PMI qui est près de chez soi?
La PMI, l'assistante sociale du secteur, ou même directement les organismes d'aide à domicile du secteur qui pourront orienter, en fait.
Est-ce qu'ils font leur nuit, les jumeaux, là? Est-ce que tout le monde dort, au moins?
Non.
Non, évidemment.
Non, mais c'est pas trop un souci pour moi. Je dors avec eux et je fais les siestes avec eux quand il faut. Et vraiment, le capital sommeil, ça va. Pour l'instant, je le maintiens, mais je m'adapte vraiment à leur rythme.
Alors, vous faites aujourd'hui des remplacements en tant qu'infirmière de nuit, donc vous êtes sacrément occupée. Est-ce que je peux vous demander si vous vous sentez heureuse aujourd'hui? Est-ce que vous êtes une maman solo épanouie? Ou est-ce que vous vous dites, je voudrais quand même avoir quelqu'un à côté de moi? Enfin, comment est-ce que vous voyez votre avenir, l'avenir de votre famille?
Ma famille, je la vois encore plus grande, mais on est très heureux comme ça. Je suis vraiment fière de la famille que j'ai.
Je vous arrête deux secondes. Ouais. Je la vois encore plus grande. Ça. Là, vous allez me faire un petit quatrième?
Je vais me faire un petit.
Je vais nous faire. Non, parce que je vais les adopter, ça se trouve. Non, mais non. Vous envisagez d'en faire un quatrième?
C'est pas exclu. Ouais, je la vois bien un petit peu plus grande ma famille.
Mais conscience que vous pouvez nous refaire des jumeaux quand même là.
Ouais, ça c'est. Ça pourrait être le bémol. Parce que là, une pour cinq.
Oui, là, c'est un peu dur.
Mais rien n'est impossible.
Donc vous l'envisagez vraiment. Et côté cœur, alors, est-ce que vous êtes bien comme ça ou est-ce que vous vous dites, oh, quand même, ça serait bien que j'ai un compagnon, quoi?
Nous, notre famille, elle nous convient comme ça. Je n'exclus pas que je puisse rencontrer quelqu'un. L'avenir fait de peine de surprises. J'ai déjà vu que ça pouvait être plein de surprises. Et pourquoi pas rencontrer quelqu'un? C'est pas fermé.
Alors, je vais vous dire quelque chose. Là, si vous faites un quatrième enfant, vous êtes obligé de revenir nous en parler ici. Alors évidemment, on l'a dit en introduction de notre discussion, la PMA aujourd'hui, elle est légale en France. Est-ce que pour vous, c'est en France que vous ferez votre quatrième enfant ou plutôt vous retournez en Belgique?
Je retournerai en Belgique.
Ah bon, pourquoi?
Oui, parce que je connais le parcours maintenant. Je pense qu'il est plus simple d'aller en Belgique. Puis j'ai déjà trois beaux enfants.
C'est plus simple parce que plus court, vous êtes renseignée?
Je pense que c'est plus court, c'est assez rapide au niveau des rendez-vous, tout ça. Donc moi, comme c'est un parcours que je connais, je me vois bien retourner en Belgique et laisser en France les gens qui en ont vraiment, vraiment besoin.
Bonjour professeur Michael Grimberg, merci.
Bonjour.
D'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gynécologue obstétricien, chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité au CHU Antoine Béclair à Paris et à l'hôpital Jean Verdier à Bondy. On peut dire que vous êtes occupé. Hein, voilà. Donc on vous remercie encore plus d'être là ce matin. On l'a entendu, Louise envisage plutôt de retourner en Belgique plutôt que de faire sa PMA en France, malgré la légalisation, à cause des délais notamment. Est-ce que c'est le fait qu'on a levé l'anonymat des donneurs qui fait qu'il y a moins de donneurs et que les délais sont plus longs? Qu'est-ce qui fait qu'elle rechigne un peu, à votre avis?
Alors aujourd'hui, les délais, ils ne sont pas liés au changement, aux modalités d'attribution des donneurs, puisque on fonctionne encore avec des donneurs ancien régime, avec un anonymat complet. Même si la loi a changé.
Alors ça sera en vigueur quand, alors ça...
La loi est passée, mais pour l'instant, on ne les recrute même pas encore. On est censé vider les cuves de donneurs ancien régime.
Voilà.
Bravo. On a l'image mentale.
C'est comme ça. Les cuves de congélation.
Je m'appelle qu'il y a 9h44.
Exact. Pardon. Donc, les cuves de congélation, pardon, avec les donneurs ancien régime, donc donneurs purement anonymes. Et donc là, on n'a pas encore commencé vraiment à recruter ces donneurs non anonymes, mais en sachant qu'en France, ça va être de la levée d'anonymat partiel, puisque ça va être pour les enfants ultérieurement des informations, des données non identifiantes. Donc il y aura très peu d'informations. Ça va être très très flou. On ne sait pas encore bien si vraiment on aura une pénurie de donneurs ou si finalement les gens viendront. Le fait est qu'aujourd'hui, ce qui bloque, c'est les moyens qui sont donnés dans des centres limités pour faire cette activité de don de sperme. C'est uniquement le secteur public, c'est les fameux dits CECOS, les centres de conservation des œufs et du sperme, qui sont aptes à délivrer les paillettes de sperme. Et du coup, vu qu'on a eu un afflux de patients, que ce soit les femmes en couple ou les femmes célibataires, à partir du moment où la loi a légalisé ça, on s'est retrouvé avec plein de demandes, mais sans avoir le personnel et les moyens de pouvoir répondre à cette demande. Alors qu'on aurait pu préparer tout ça.
Il n'y a rien qui a suivi, en fait.
Il n'y a rien qui a suivi, ou quasiment rien.
Il y a eu un beau débat sur la loi bioéthique en tant que telle, mais il n'y a pas eu de débat sur les moyens mis...
Sur la logistique.
Il y en a eu un peu, mais vraiment très peu. Mmh. Et puis, c'est des moyens très ponctuels pour du matériel, mais les moyens humains, on ne les a pas. Ouais. Ou alors, il aurait fallu qu'on fasse plus... pour les dons, mais ça veut dire que les couples infertiles standards, etc., on les prenait plus en charge, on les laissait aller dans les autres hôpitaux qui n'avaient pas le droit de faire la PMA avec les dons de sperme. Mmh. En gros, le privé faisait la FIV standard et les traitements de l'infertilité, et les hôpitaux publics qui étaient les seuls habilités à pouvoir faire ces dons de sperme, récupéraient une activité plein temps de ça. Mais ça n'a aucun intérêt pour nous de faire que ça, de se restreindre, et personne ne voulait le faire. Donc, on a continué à essayer de garder une activité diversifiée, mais avec des délais, malheureusement.
Évidemment, on a reçu beaucoup de questions de ce qui est possible de faire ou pas en France en matière de PMA, quelles vont être les évolutions par rapport à d'autres pays européens. On a reçu la question de Sabrina en vidéo, regardez.
Bonjour les maternelles, je suis Sabrina, maman solo de jumeaux eu en PMA, en adoption d'embryon à Madrid en 2021, et je me demandais où on en était de ce procédé actuellement en France, notamment pour les couples ou femmes qui n'ont pas de problèmes médicaux. Merci.
Là, elle parle de don d'embryon, donc.
Alors oui, c'est ce qu'on appelle, nous, l'accueil d'embryon. L'accueil d'embryon, c'est des couples qui avaient fait une PMA avec un projet et qui ont quelque part eu leur quota d'enfants et qui avaient des embryons surnuméraires.
D'accord.
Qui n'ont pas voulu utiliser. Donc, ces embryons, certains couples sont d'accord pour les faire, au lieu de les faire détruire, puisqu'ils n'ont plus de projet, eux, personnels, de les donner à des couples qui en avaient besoin. Alors, jusque-là, c'était des couples hétérosexuels où il y avait besoin à la fois d'un don d'ovocyte et d'un don de sperme. Les deux étaient infertiles, mais le double don était jusqu'à ces changements de loi interdits en France.
Voilà.
Donc, c'est des couples qui pouvaient être candidats à l'accueil d'embryons. Maintenant, ça va pouvoir l'être aussi pour ces femmes en couple, mais pas tellement pour les mamans célibataires. Pour l'instant, c'est plus restreint à des couples qui seraient candidats à cet accueil d'embryons. Il faut savoir quand même que c'est très particulier, l'accueil d'embryons. Déjà, c'est des embryons qui ont été constitués dans un projet qui était totalement différent. Mmh. Ils étaient constitués dans un projet de couple hétéro au départ, et il n'y a plus de devenir. Donc déjà, c'est ce qui fait que l'accueil d'embryons fonctionne, entre guillemets, à l'étranger, c'est parce que ça revient moins cher que le double don.
Là-bas ?
Ouais. Mmh. Dans tous les pays à l'étranger, c'est les femmes qui sont un peu limitées financièrement qui vont dire, au lieu de faire un double don d'ovocytes plus don de spermato, vont dire, bon, on a la possibilité, dans ce cas-là, de vous donner un embryon qui n'a pas besoin d'être fabriqué.
Qui est déjà fait.
Il est déjà là. Donc, ça vous coûtera moins cher. Il y a beaucoup de femmes, qu'elles soient solo ou en couple de femmes, qui vont partir, ou même des couples hétéros d'ailleurs, qui vont partir sur cette option parce que c'est une problématique financière. En France, l'accueil d'embryons reste relativement confidentiel. C'est un truc qui ne marche pas beaucoup. Il y en a pas.
Et puis la double infertilité, ça doit être assez rare, non ?
Alors la double infertilité, alors elle existe, mais en général, c'est une problématique d'âge féminin et d'homme qui n'a pas du tout de spermatozoïde. Ouais. Bon, il faut quand même bien se trouver, quoi.
Florence dit, accompagner une femme ayant déjà des enfants dans une PMA solo avec risque de jumeaux, c'est une grosse responsabilité. Est-ce que ça vous arrive de discuter de ça avec vos patientes, voire de refuser ?
Alors, en général, on en discute pour essayer d'éviter ça. Ouais. Parce qu'il faut replacer les choses dans leur contexte, en particulier quand ces femmes-là n'ont pas d'enfants. Mais on a la même problématique avec les couples hétérosexuels. Hein. Ils sont dans un tel désir que, de toute façon, ils sont prêts à tout. C'est un peu ce qu'elle disait, tout ce qu'on...
Bien sûr.
La patiente précédente, la femme qui est venue intervenir, qui nous disait, bon, ben voilà, moi, je prends ce qui vient. Et en fait, c'est ça. Donc, c'est à nous, médecins, de faire attention à ce qu'on va faire prendre comme risque, parce que quand même, je pense que au-delà des risques de gémellaire, de grossesse gémellaire, qui sont un risque médical en soi potentiel, un sur-risque en tout cas, les jumeaux en solo, c'est quand même très compliqué, il faut être quand même très très accompagné.
La première est de Joy, qui a 29 ans. J'ai fait une écho et une prise de sang qui révèle que ma réserve ovarienne est basse. Je ne pensais pas à une grossesse en solo tout de suite, mais ça me fait réfléchir. Qu'en pensez-vous ?
J'en pense que c'est normal de réfléchir, mais le problème, c'est que la réserve ovarienne ne prédit pas du tout la fertilité. À partir du moment où on fait ces tests-là, on accepte de prendre le risque d'avoir une annonce potentiellement comme ça.
Anxiogène.
La majorité des femmes qui ont des réserves ovariennes basses et qui sont jeunes ont leurs enfants tout à fait naturellement, on ne les voit jamais en consultation. Ça, c'est la réalité. A contrario, avoir une réserve ovarienne normale ne veut pas dire qu'on est fertile non plus. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille en tenir compte.
C'est une patiente qui vient vous voir, je dirais, elle est 34 ans, et qui vous dit oh, « Est-ce qu'on pourrait tester ma réserve ovarienne ?» Vous dites non ?
Je ne lui conseille pas. En tout cas, je lui explique tous les enjeux et tout ce qu'il peut y avoir comme conséquence de ça.
Et c'est ça.
Et en gros, que ça va nous donner quasiment aucune information. La réserve ovarienne ne teste qu'une seule chose, la capacité des ovaires à répondre à une stimulation ovarienne. Quand est-ce qu'on fait une stimulation ovarienne ? Quand on fait une FIV, donc quand on est infertile, ou quand on fait une congélation d'ovocytes, pour savoir si on va produire des ovocytes ou pas.
Mais ça risque de créer une obsession,
voilà.
En fait.
Là, et si on essaie de manière classique, ça ne change rien ?
Rien du tout.
Rien du tout. Donc, en fait, Joy, on lui dit non.
Non, je ne pense pas.
On ne change rien.
Je pense pas.
Et cette réserve, elle peut évoluer ou pas ? Elle peut aller en descendant.
En général, elle décline avec le temps. Elle ne fait que ça.
Malheureusement,
c'est la dure loi de la
femme. Ça ne se régénère pas, contrairement au foie. Heureusement pour nous, Marie.
Solène vous dit j'ai un enfant. Pardon.
Mais du coup, ça m'embête quand même.
Elle est embêtée, hein, Yacine, avec cette histoire de régénération.
Ouais, je me dis, c'est con quand même, la vie. Bon. Solène vous dit, j'ai un enfant et j'entame une PMA en solo pour un deuxième bébé. Si jamais je tombe enceinte de jumeaux, me proposera-t-on une réduction embryonnaire, vu ma situation ?
Alors, en théorie, non, puisque c'est en amont que ça doit se discuter. Le but n'est pas de favoriser les jumeaux, parce qu'effectivement, ça peut être compliqué. On voit bien que pour elle, ce n'est pas son désir. Mm. Donc, en gros, elle a dû entendre le discours d'en avoir deux possible dans la course, deux ovules dans la course va augmenter vos chances d'en avoir au moins un, au risque éventuellement d'en avoir deux. C'est sans doute vrai. Mm-hmm. Mais si on ne veut pas prendre le risque d'en avoir deux, il ne faut pas le prendre et il faut accepter de ne faire des stimulations ou des traitements que pour en avoir un seul. Parce que même si vraisemblablement elle trouvera des centres pour faire cette réduction, éthiquement c'est très compliqué à la fois pour les centres parce qu'une grossesse gémellaire reste une grossesse normale. Mm. On ne considère pas que ce soit une grossesse à risque majeur, comme une grossesse triple ou quadruple. Donc, ça reste physiologique, même s'il y a un sur-risque. Et on n'est jamais très à l'aise de réduire de 2 à 1, sauf d'autant que la réduction, en gros, on tape au pif. Hein. On va en tuer un, celui qui est le mieux placé sous la sonde, complètement au hasard, donc sous la sonde d'échographie. Donc, éthiquement, c'est très compliqué pour les médecins. Ouais. C'est difficile pour la femme. Et surtout, il y a un risque de perdre les deux, les 15%.
C'est ça. Les 15%, ce qui est énorme.
Ce qui est quand même pas négligeable. Donc, le gain éventuel d'un deuxième ovule dans la course pour essayer d'augmenter les probabilités de grossesse font qu'il y a une perte potentielle si on veut aller vers la réduction. Donc, globalement, ne pas prendre le risque pour ne pas avoir à se poser la question d'une éventuelle réduction embryonnaire.
Adeline vous demande si les femmes solo et en couple homo passent en dernier sur liste d'attente.
Non.
Alors,
les listes d'attente sont le nom. Il n'y a pas de discrimination. Donc en fait, tout le monde est à partir du moment où la loi est entrée en vigueur, au fil de l'eau. Donc que ce soit un couple hétérosexuel, des femmes en couple, des femmes célibataires, elles viennent dans l'ordre pour tous les candidats au don de sperme sont pris dans l'ordre.
Ça a dû vous faire quelque chose à vous parce que vous étiez un militant pour l'évolution de cette loi quand vous avez eu la première fois un couple de femmes qui venait vous voir. Vous devez vous dire ah ça y est enfin quoi.
Ça y est enfin, mais je savais que j'allais leur imposer derrière, j'allais leur dire que, ok, c'est bien, je peux vous mettre vous avez le droit de vous mettre sur une liste d'attente. Ce qui est dur quand même.
Oui, mais au moins, elles ne partaient pas en Espagne, je veux dire.
Mais elles y vont quand même au final, parce qu'elles ne veulent pas attendre. Mmh. Surtout quand celle qui veut porter à 37, 38, 39, et que ça fait déjà un certain temps qu'elles attendent. Il y en a beaucoup qui sont très déçus de cette loi. Et les délais d'attente sont quand même compliqués à gérer pour beaucoup. On leur avait parlé de levée d'anonymat. En fait, c'est très, très partiel ce qui va se passer. On sait que pendant l'année encore et demie à venir, on va être sur un régime de donneur strictement anonyme. Donc, ça répond vraiment pas du tout aux attentes de beaucoup de femmes.
On continue de partir, quoi.
Ouais.
Evie vous dit, j'ai 42 ans et je n'ai pas fait le deuil du petit dernier. Séparée du papa de mes aînés, j'aimerais vivre une dernière grossesse en solo. Ma demande sera-t-elle acceptée en PMA ?
42
ans en France, compte tenu des délais et en sachant que la loi impose que tout soit fait avant 43 ans, ça ne passera pas. Ça veut dire qu'il faut aller à l'étranger, nécessairement.
C'est clair.
Ouais.
Okay. Aïssa nous explique, mon travail me prend actuellement tout mon temps. J'ai toujours eu en tête un projet de maternité solo, mais dans quelques années, vers 35-36 ans. Me conseillez-vous de congeler mes ovocytes d'ici là ?
Quel âge elle a ?
Elle doit avoir la trentaine, j'imagine.
Ouais. Ouais.
Si le projet il est à 2-3 ans, sans doute pas. Si le projet il est à 5-6-7 ans et qu'elle a 32-33 ans,
d'accord.
Oui.
Si en gros elle veut faire ses enfants à 40 ans, là ça vaut le coup.
Ouais,
c'est ça.
Sans doute, on va dire ça.
Rose vous dit, y a-t-il un taux de réussite plus élevé pour les inséminations avec le sperme du papa versus celle avec le sperme d'un donneur ? On parle souvent du rôle de la psychologie dans la fertilité. On parle aussi parfois de compatibilité.
Je sens que vous allez me dire qu'il n'y a pas d'études là-dessus.
Voilà. Non, les histoires de compatibilité, c'est très compliqué. Il n'y a rien de prouvé médicalement. Maintenant, il y a quand même des couples qui, à un moment, on est en droit de se poser la question et qui essayent pendant des années, ils se séparent et puis après, ils se remettent avec des conjoints, ça marche tout de suite.
On en connaît tous.
Donc, on est en droit de se poser la question. Maintenant, effectivement, comme Agathe le dit, il n'y a pas de données probantes qui le confirment. Mm. Alors après, pour ce qui est de est-ce que ça marchera mieux avec son conjoint ou avec un donneur, j'en sais rien. Si elle a essayé avec son conjoint, et que ça ne marche pas, il faut voir si le sperme est normal, ça dépend de est-ce qu'il est normal ou pas. S'il n'est pas normal, oui, le sperme de donneur, en général, ils sont sélectionnés. Donc, en théorie, meilleur en termes de qualité et de potentiel.
Mais s'il y en a quelques-uns qui fonctionnent, on va choisir le meilleur de ceux de son conjoint, de toute façon.
Si elle fait de la fécondation in vitro, oui. En tout cas, ce n'est pas une indication. À mon avis, si le sperme de son conjoint n'est pas vraiment compatible pour des inséminations, il faut passer en FIV. Sauf si ce couple-là refuse d'aller en FIV. Mm-hmm. Et auquel cas, si elle veut rester en insémination, bah, peut-être qu'il faut passer par un donneur.
Elle posait peut-être une question qui n'avait rien à voir avec elle. Hein. C'était juste comme peut-être. Ça, pour savoir.
Il y a des... Peut-être. Peut-être.
Il y a des couples qui refusent la FIV ?
Il y a des gens qui refusent la FIV, oui.
Pour des raisons quoi, idéologiques ?
Ouais, il y a étonnamment, c'est souvent les hommes qui, je sais pas, ont, par rapport à leur virilité, je sais pas quoi.
Ah, c'est vrai,
il y a ça aussi. Il y a beaucoup de freins à la PMA qui viennent des hommes. Pourtant, c'est les femmes qui reçoivent tous les traitements. Hein. Et même si c'est l'homme qui a le rôle principal dans l'infertilité quand elle est étiquetée masculine, eh ben, on va se retrouver avec des hommes qui vont dire non, non, mais moi je veux pas faire de PMA. Moi, je veux que ça vienne naturellement. Et ils attendent.
Ouais, ça vient pas. Il y a eu un message qui vient d'apparaître sous l'écran de quelqu'un qui vous remercie pour vos conseils bénévoles au moment de son cancer du sein. Donc on n'a pas plus de détails, mais écoutez, on voulait vous le signaler.
Avec plaisir.
Oui, ça c'est une des raisons de les quatre cancers sont une des raisons de congélation des ovocytes. Ouais. Ça, ça fait partie de votre quotidien aussi.
Ouais, ça c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est historique hein. Pour le coup. Ça se fait depuis un certain nombre d'années déjà, parce qu'on sait que la toxicité des traitements et le délai pendant lequel ces femmes-là vont pas pouvoir être enceintes, donc la baisse, le temps qui passe, plus les effets des traitements anticancéreux vont altérer la fertilité et beaucoup de ces femmes-là n'arriveront pas à avoir d'enfants derrière. Alors que si elles ont mis de côté des ovocytes, des ovules, avant d'avoir eu les traitements anticancéreux, ça leur restitue des chances. Bah, si elle a un cancer à 32 ans et qu'on congèle à 32 ans, même si on l'autorise à avoir une grossesse à 37 ans, eh ben elle la fera avec des ovules de 32 ans avec un potentiel optimal.
Donc ça change tout.
Karen vous demande si on peut faire un point sur la levée de l'anonymat des donneurs et donneuses en France. Quelles informations sur les enfants issus de dons peuvent-ils avoir exactement ?
Alors aujourd'hui, en l'état actuel des choses, la loi a changé. On va passer à une levée, entre guillemets, je reviendrai dessus, d'anonymat. Mais pour le moment, c'est ce que je disais tout à l'heure,
on vide les cuves.
Les cuves qui contiennent les paillettes de sperme. Donc, et c'est des donneurs ancien régime. Oui, donc ça va durer encore pendant une année et demie. Donc aucune information pour les enfants à pouvoir récupérer.
Pour cela.
De l'anonymat total. Dès lors que la loi va changer et qu'on pourra la mettre en vigueur et qu'on pourra la mettre en pratique, on va dire aux alentours de mi-2023-2024, on aura des enfants pourront avoir à leur majorité des informations sur des données non identifiantes sur les donneurs. C'est-à-dire que en gros, pas grand-chose. C'est une levée vraiment très, très partielle d'anonymat.
Est-ce
qu'il va bien, son origine ? Enfin, ça va être très sommaire. Donc, c'est une pseudo-levée d'anonymat. On ne peut pas parler de levée d'anonymat à proprement parler. On n'est pas comme au Danemark, où on peut avoir des informations, les donneurs acceptent d'être rencontrés, etc. Ça n'a rien à voir.
Merci, professeur Michael Grimbert. Merci à Louise d'avoir accepté de venir nous voir et d'avoir accepté de voir en vrai Agathe Le Caron, ce qui peut faire peur tant on ne peut être ébloui par sa beauté et son charisme. Mais non, vous avez osé venir et ça c'est fort. Merci professeur Grimbert, merci à Louise et merci à vous surtout d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'Agathe n'entend pas ses bêtises, sinon je vais me faire déchirer. On se retrouve demain 9h25 sur France 2 quand vous le souhaitez en podcast, quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde.